ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Abderrahmane Oumachar. Merci Abderrahmane d'être venu aujourd'hui, en cette période de confinement, malgré le confinement, mais dans l'équipe de Radio Présence, nous avons pensé qu'il est important de faire continuer la voie de l'espérance, et c'est une des priorités. Vous êtes déjà venu ici.
Alors exactement, merci à toi Benoît pour cette deuxième invitation.
Oui, c'était le 10 février et le 1er août parce que vous étiez venu comme intervenant au groupe d'amitié islamo-chrétien où vous présentiez la prière dans l'islam.
Oui, c'est bien ça.
Bon, vous êtes père de famille, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi vous êtes fondateur du Centre toulousain de spiritualité musulmane. Et puis, dans la vie professionnelle, vous êtes sociologue, psychosociologue, et vous intervenez dans des quartiers comme médiateur social et interculturel. Je voudrais, nous en avons parlé, vous acceptez qu'en ce début d'émission, nous fassions mémoire de Monique Lys-Cohen qui, il y a 3 semaines, était à votre place et qui nous a quittés. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette philosophe, cette personne qui a beaucoup travaillé comme écrivaine juive avec l'Institut catholique, j'aurais voulu évoquer une page de son dernier livre, paru aux éditions Horizon, « Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle ». Puisque Abderrahmane, vous êtes médiateur aussi. Mmh. Donc on est en plein dans la laïcité, dans le fait que nous sommes faits pour ne pas vivre seuls, mais en interaction les uns avec les autres. Et alors, j'avais pris la page 116 de Monique Lys-Cohen, « Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle », parce qu'il évoque, elle évoque, Monique, ce débat qui a longtemps ou trop longtemps divisé les Juifs et les chrétiens, le Nouveau ou l'Ancien Testament. Mais la première épître de Pierre, elle le commente longuement, c'est pas le rôle ici, nous évoque ce que je pourrais dire sans doute la Oumma, c'est-à-dire la grande fraternité humaine. Je cite l'épître de Pierre en 2.5, donc page 117 du livre de Monique Lys-Cohen, « Vous êtes une race élue ». Oh là là, fin de citation, parce que le mot race n'est plus toléré en France, aussitôt c'est le racisme. Bon. Pierre continue, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alors, avec mes amis de la Réforme, nous disons, mais y a-t-il plusieurs médiateurs entre Dieu et les hommes, sacerdoce royal? Pierre va plus loin, une nation sainte, un peuple acquis. Et c'est là où, avec Abderrahmane, nous avons réfléchi, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Fin de citation. Nous passons des moments extrêmement difficiles avec les attentats qui ont eu lieu à Nice, avec le coronavirus, avec même le débat dans l'école pour savoir ce qu'il est permis de dire. Qu'est-ce que c'est que ce passage des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu? Voilà, nous sommes en plein dans cette émission aujourd'hui où nous parlons chacun de nos convictions, de notre foi. Merci Abderrahmane d'être venu.
Merci pour cette invitation. C'est le moment aussi pour saluer tous nos concitoyens de culture et de foi chrétienne. Pendant cette période de la Toussaint, et leur souhaiter une bonne fête et mes meilleurs vœux, même si un peu tardivement, mais c'est toujours une bonne occasion pour les saluer et leur adresser toute ma sympathie et ma considération, surtout par rapport à cette période où la communauté chrétienne a été secouée par les attentats qui ont visé des fidèles dans l'église à Nice. Et donc, voilà, nous sommes tous solidaires et affectés au même titre par rapport à ce qui s'est passé.
Alors, le débat, c'est de savoir, dans la société française, ou même en Europe et au-delà, par rapport au Maghreb, comment des hommes de bonne volonté peuvent échanger sur leur foi sans provoquer l'autre. Et la notion de tolérance ou d'intolérance nous renvoie à la politesse d'abord.
Exactement. Moi, ce qui m'inspire un peu dans le texte un peu que tu as choisi de lire, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est cette conviction que le plus important, ce n'est pas la religion ou la conviction à laquelle nous appartenons et dont nous nous réclamons. Le plus important pour moi, c'est ce que fait de nous cette conviction, ce que fait de nous cette religion, comment cette conviction se traduit concrètement en termes de bel agir. Et donc, le curseur ici, il change radicalement de perspective ne pas faire de la religion ou d'une conviction un étendard ou un refuge, mais une identité un peu crispée, mais faire de nos convictions quelque chose qui nous pousse à faire un travail sur nous-mêmes et qui nous pousse surtout à être dans une interaction intelligente avec les autres. Moi, j'aime bien revenir au sens premier de la de religion qui vient aussi de... qui renvoie à l'aspect de relier les hommes entre eux. La religion, c'est quelque chose qui nous relie à Dieu, d'abord, dans un premier temps, mais cette relation à Dieu nous renvoie vers une qualité de relation avec les autres. On ne peut pas aspirer et on ne peut pas vivre une bonne spiritualité si on n'a pas une bonne relation avec les autres. En tout cas, c'est comme ça que je conçois la religion. Et pour moi, toute forme de religiosité qui ne se traduit pas par une qualité de la relation, qualité de l'attention qu'on porte à l'autre, n'est qu'un simulacre de religion. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une authentique spiritualité et une spiritualité authentique.
Alors, le problème, c'est que dans chaque religion, il y a des oppositions à l'intérieur même de fidèles ou de croyants d'une même obédience à propos des rites, ah mais à propos de l'alimentation, ah mais à propos des moments de prière, est-ce qu'on est plus ou moins rigide ou est-ce qu'on est plus ou moins libéral, intrusif ou inclusif, diraient les sociologues. Et donc, les religions s'affrontent entre elles, mais aussi à l'intérieur d'entre elles. Et puis, certains vont dire, oui, vous parlez des saints, mais moi, je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort. Et là encore, donc, chacun va peut-être faire référence à des textes inspirés. Nous avons cité tout à l'heure Pierre, pour les catholiques, le premier pape. Les religions, c'est aussi des adeptes qui relisent des textes qu'ils appellent inspirés ou sacrés. Or, le problème du sacrilège, c'est de dire non, je n'ai pas la même interprétation que toi, parce que, par exemple, toi, tu lis le Coran en arabe, mais on ne peut le lire qu'en arabe, alors que j'ai dans mon bureau 7 ou 8 interprétations diverses, parce que les langues changent. Et Madame Monique Liskoen disait bien le sang de l'alliance avec Madame Escaffre, elle avait dit, mais le sang, c'est le sang de la bénédiction et non pas le sang de la malédiction de Jésus mort sur la croix. Mmh. Et qu'une philosophe juive travaille sur ces questions. Une autre fois, sans doute, nous aurons à débattre des interprétations du Coran. Est-ce qu'il est de Médine ou est-ce qu'il est de la Mecque?
Moi, je pense que là, tu abordes quelque chose de fondamental. C'est il y a un propos attribué à Imam Ali, qui est le cousin et le gendre du prophète, qui est une grande référence pour les musulmans, et notamment pour les musulmans chiites, qui dit que le Coran ne parle pas, c'est les hommes qui parlent à travers le Coran. C'est-à-dire qu'il y a toujours une interprétation humaine, il y a toujours une médiation humaine, Et bien sûr, il y a une, tout va dépendre de la qualité de, la, de cette médiation, la qualité spirituelle, la qualité intellectuelle, la profondeur intellectuelle de cette médiation, qui va donner lieu à des formes de, d'intelligence du fait religieux, qui soit profonde ou médiocre, qui soit littéraliste ou contextualisé, etc. Et donc, d'où l'importance un peu du travail qu'il s'agit aujourd'hui de faire par les acteurs musulmans, notamment là on est en train de, d'aborder notre, justement la question de la pourquoi on vire vers la radicalisation, pourquoi on vire vers l'extrémisme. C'est une question complexe, mais la réponse elle est en partie liée à cette qualité de transmission des savoirs, notamment le savoir religieux, et comment on arrive à transmettre aux nouvelles générations des musulmans qui veulent ou qui veulent pratiquer ou qui s'intéressent à la pratique de leur religion, comment on arrive à transmettre un savoir profond, un savoir pluriel, un savoir qui met en avant aussi les fondamentaux de la religion, notamment la sacralité de la vie humaine. Et c'est un travail qui est extrêmement important à faire. Il y a aussi, on parlait beaucoup de l'école. Aujourd'hui, je pense qu'il est important d'insister aussi sur l'importance d'enseigner le fait religieux, non pas enseigner la théologie, mais enseigner le fait religieux et le débat, et initier aussi tous les élèves à la pluralité des points de vue qui existent dans les différentes traditions religieuses, spirituelles, etc., qu'ils soient dans les, d'origine monothéiste ou d'autres traditions philosophiques. Je pense que c'est extrêmement important d'accueillir un peu les inquiétudes, les questionnements des élèves pour les préparer aussi à devenir des citoyens capables de faire des choix, d'être vigilant par rapport à des procédés d'endoctrinement, etc., etc.
J'aime bien que tu aies parlé tout à l'heure du contexte, la contextualisation, parce que ce soit pour des textes, on va dire, de l'Évangile, ou que ce soit pour des textes même de philosophes, Augustin ou Thomas, il est facile pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement érudit de faire des courts-circuits symboliques. J'aime bien utiliser ça en disant on transpose des problèmes d'une certaine époque dans notre époque aujourd'hui avec nos questions de mondialisation et des questions aussi de telle endémie, hein, de telle maladie. Alors, peut-être avant de revenir sur l'école et sur ton travail dans les quartiers, pour ceux qui ne t'auraient pas écouté tout à l'heure, la dernière fois, je veux dire, j'aimerais que tu dises, tu parles de la transmission. Comment tu as appelé ton fils ? Parce que je trouve que c'est beau.
Bah, avec mon épouse, on a fait le choix d'appeler notre fils Idriss Amadeus. Idriss parce que ça renvoie à une figure biblique qui est Enoch. En même temps, Amadeus pour celui qui aimait Dieu, celui qui aime Dieu. Et aussi, ça fait référence à autre chose, au célèbre compositeur et musicien de génie. Et donc l'idée c'était de l'enraciner symboliquement dans sa double culture, dans la pluralité de ses identités. Et je pense que ça fait partie des grands enjeux de notre société, c'est d'arriver aujourd'hui à cohabiter avec nos pluralités identitaires et avec donc nous sommes faits de plusieurs choses et qu'il faut, je pense, que notre société arrive à inclure ça et à travailler ces questions-là avec plus d'ouverture, plus de culture,
plus d'amour aussi.
Plus d'amour, plus de fraternité. Parce que ça, je pense, ce n'est pas une malédiction pour la France, mais c'est une grande richesse. Encore faut-il savoir en tirer profit.
C'est aussi le sens de cette musique que vous nous avez apportée, et merci de ce choix. Mounir Abrahim Mohamed Saharat, vous allez nous la présenter tout à l'heure.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Abderrahmane Oumachar, vous êtes médiateur, psychosociologue, et vous travaillez au niveau de l'interculturel, embauché par la mairie en partie. Mais avant de parler de votre travail de quartier, revenons à ce temps de méditation. Heureux celui qui prie la nuit pendant ce temps où dorment les gens. Le moment de la prière.
C'est en islam et dans la spiritualité musulmane, et je pense qu'aussi ce n'est pas le propre de l'islam. Je pense aussi dans la tradition mystique chrétienne ou catholique en particulier. Ce temps de la nuit, c'est un temps propice à la spiritualité, un temps propice au recueillement, un temps propice au retrait. Et c'est un temps fort pour quelqu'un qui veut s'initier, qui veut cheminer. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans le Coran et dans la pratique du prophète et dans ce qu'il a enseigné, c'était une grande incitation à avoir dans chaque nuit un moment de recueillement et de prière et de solitude un peu avec Dieu. Et j'ai ici... Je voulais vous citer un verset du Coran qui parle des serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et lorsque ils sont provoqués par ignorance, ils disent paix, ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur.
Oui, mais la nuit, c'est aussi le temps de la tentation, des djinns, des cauchemars. Il ne faut pas non plus voir le monde sous le soleil. Il y a aussi des orages et des moments de solitude.
Oui, et à chacun, donc à chacun, il choisit la façon avec laquelle il habite son temps, comment il remplit son temps, comment il investit le temps. Et il y a, on peut l'investir de différentes manières. Et ceux qui veulent être dans un cheminement spirituel sur la voie des grands mystiques, ben ils trouvent dans la nuit ces moments-là privilégiés d'être concentrés, d'être dans un temps d'une grande intensité spirituelle.
Comme le jeûne est une rupture par rapport à la boulimie et au fait de vouloir toujours consommer davantage. Mais vous travaillez à résoudre des conflits dans des quartiers. Parlez-nous un petit peu
La médiation sociale, c'est justement la définition de la médiation. C'est un travail sur le lien social, sur capacité à créer du lien, à réparer du lien, à rendre possible le lien. Qui peut prendre différentes formes, notamment la résolution par le processus de médiation des conflits entre les personnes. Ça peut être aussi un travail de médiation entre des individus, des personnes, des citoyens et l'administration, les différentes institutions pour faire évoluer et avancer
les
dossiers. Permettre aussi une lutte contre les discriminations, agir un peu pour l'accès aux droits. Ça fait partie aussi aujourd'hui de la politique publique de la France, c'est de permettre, dans le contexte un peu des quartiers prioritaires où il y a une concentration de pauvreté, donc de permettre aux personnes de retrouver leurs droits, de retrouver un logement, retrouver un travail. Les temps sont durs et heureusement qu'il y a cette action-là pour essayer d'atténuer le poids de la crise qui pèse aussi sur les gens.
La discrimination peut entraîner une violence, peut entraîner la haine de l'autre en disant, mais, ou parfois peut-être même la jalousie, il a plus que moi, pourquoi ? Ou bien il a des sous sans rien faire. On est devant des difficultés. Et vous n'êtes pas tout seul, bien sûr.
Exactement. Je pense que les contextes d'exclusion sociale sont des contextes qui propicent malheureusement au développement de toute forme de violence. Et donc, du coup, il est extrêmement important d'agir un peu sur ce terrain-là pour... Et justement, la laïcité, c'est un outil formidable, une loi qui permet une organisation politique et sociale qui permet justement de lutter contre les discriminations, les différentes formes de discrimination.
Qui permet que chaque religion ait sa place, mais tout à l'heure nous avons parlé des lois, qu'aucune religion peut dire que la loi de la République est inférieure à ce que l'on pense être la loi de Dieu.
Bien sûr, donc quand on vit en société, on se réfère tous en tant que citoyen, en tant que résident dans un pays, on se réfère aux lois qui régit ce pays et qui régit la société. Voilà.
Sans donc, qu'une minorité ne se sente discriminée.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a, des... Avant, c'était un chantier très important pour la France que celui de lutter contre les discriminations en raison du sexe, de la religion, de la couleur, de l'appartenance ethnique ou autre. Donc voilà, c'est un chantier extrêmement important qui a des enjeux sur la qualité de notre vivre ensemble, la qualité de notre solidarité à l'intérieur d'une nation. Et voilà, parce qu'il faut donner aux moyens, à tous les citoyens les moyens de vivre dignement dans une société. C'est ça qui est la condition pour avoir la paix aussi, la paix sociale et la fraternité qui est une valeur fondamentale dans notre nation.
En essayant de ne pas trop provoquer les autres par l'impolitesse ou l'injure ou l'agressivité. Vous aviez prévu, parce que déjà le temps est imparti, une phrase pour nous appeler à la tolérance et à l'écoute de l'autre que souvent nous ne connaissons pas, et la peur entraîne peut-être l'inquiétude, la méconnaissance de l'autre, alors que le dialogue permet de travailler à une tâche commune.
Exactement, oui. Je pense que vous avez tout à fait raison de le signaler, c'est que rappeler que la fraternité, voilà, c'est une valeur
à part
entière, c'est
une valeur
fondamentale qui est un peu au cœur de notre nation. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment, on ne parle pas assez de la fraternité qui est au cœur, je pense, de notre nation et notre projet de société ensemble. C'est vraiment de vivre un peu cette fraternité. Et je pense que dans ce temps trouble que nous vivons actuellement, ce n'est pas la peur qui doit gérer notre société. Donc il ne faut pas céder à la peur, mais bien au contraire, il faut oser la fraternité. Et c'est ensemble qu'on peut marginaliser ce qui devrait être marginal, à savoir toute cette tentation extrémiste, violente, et il faut la combattre ensemble. Voilà.
Merci Abderrahmane, et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.